1, 2, 3. Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéen.
Bonsoir, je suis Aurélien Ducoudray.
Et de mon côté, je suis Eric Faye.
Et tous les deux, eh bien, vous jetez des lumières crues sur les ténèbres qui enveloppent la Corée du Nord.
Ping-pong. La culture sans limite. Oh, yeah. Édito.
La culture, ça sert à élargir le cadre. Il y a des situations microscopiques qui agissent comme un bain révélateur pour laisser apparaître une photo. C'est le cas de cette affaire de censure sur le documentaire Under the Sun, documentaire controversé sur la Corée du Nord, tourné à Pyongyang, qui devait sortir demain sur grand écran en Russie, mais qui a été rejeté par 8 cinémas de Moscou, tourné pourtant avec le parrainage financier du ministère russe de la Culture. 8 cinémas moscovites ne verront donc pas ça.
Five children sing a heroic song telling how their beloved leader became a steel commander because ever since he was a child, he'd understood the importance of military force.
Avec la voix off à l'américaine, s'il vous plaît, scène de chant d'enfant de maternelle, donc en Corée du Nord, à la gloire du leader Kim Jong-un, célébrant sa révélation militaire à leur âge. La Russie qui obéit aux demandes de la Corée du Nord, c'est absurde, s'insurge le réalisateur Vitaly Mansky. Il aurait donc filmé la vie quotidienne d'écolières et d'écoliers à Pyongyang, et puis aurait laissé tourner la caméra entre les prises, laissant entrevoir donc des mises en scène. Selon le conseiller du président russe pour la coopération culturelle international. Il a mis des situations des intervenants du documentaire, il les a mis dans des situations de punition inévitable et donc il a mis en danger les intervenants de son documentaire. Voilà en même temps une radiographie par cette censure des relations entre la Corée du Nord et la Russie. On le rappelle, le premier voyage officiel de Kim Jong-un, ça s'est bien fait à Pyongyang et pas à Pékin. Une question pour vous, Eric Faye, justement, on peut analyser ce qui se passe en Corée du Nord d'une manière comme ça, journalistique, en élargissant un petit peu le cadre. Mais on sent que c'est surtout un documentaire à charge. Ça ne va pas révéler peut-être grand-chose de plus sur ce qu'on sait sur la Corée du Nord.
Vous parlez de mon livre ou du film ?
Je parle du film.
Du film.
Et de cette démarche, finalement.
C'est difficile d'aller en faveur de ce régime. Je pense que même les idéologues les plus chevronnés auraient du mal à trouver des arguments aujourd'hui pour abonder dans ce sens, même si on avait une vieille fibre léniniste qui voulait toujours se réveiller.
Mais les idéologues les plus en cours, peut-être s'ils font partie des hauts fonctionnaires, des hauts responsables de la Corée du Nord, sont peut-être en fuite eux-mêmes, hein, puisqu'on sait que depuis quelques temps, il y a une défection non seulement de la population la plus misérable qui cherche à fuir, mais aussi des hauts responsables qui, eux, fuient les purges, qui, environ tous les 5 ans, éclaircissent les rangs autour des leaders. Cette ambition documentaire, Aurélien Ducoudray, elle est peut-être presque impossible quand il s'agit de la Corée du Nord. Vous qui avez choisi aussi le prisme de la fiction avec cette bande dessinée, l'anniversaire de Kim Jong-il.
Parce que je trouve ce qui est intéressant maintenant avec tous les documentaires sur la Corée du Nord, c'est qu'on vous montre qu'on ne peut pas vous montrer. Et je trouve qu'on est arrivé à une espèce de blocage en fait, de l'information orchestrée bien sûr par le régime. Mais je trouve que les journalistes, ils sont à un point où on ne peut pas faire autrement. On va juste vous montrer qu'on ne peut pas vous montrer et montrer les petites failles, comme vous dites. Le réalisateur laisse tourner entre les prises et il montre que c'est un spectacle mis en scène. Donc on montre la mise en scène. Et qu'est-ce qu'on montre en fait ?
Et vous avez choisi d'essayer de nous montrer.
Ping-pong. La culture sans limite.
À Tokyo, tout le monde connaît l'histoire de ces enlèvements. Les kidnappings de Japonais par la Corée du Nord sont même devenus une cause nationale. Et cette cause a ses icônes. Ce couple de retraités, Sakie et Shigeru Yokota. Conférences, manifestations, médias, inlassablement depuis plus de 35 ans, ils se battent pour leur fille, Megumi, enlevée en 1977 à l'âge de 13 ans, alors qu'elle rentrait de son entraînement de badminton.
Alors cette Megumi, elle est au cœur, à l'orée de votre roman, votre nouveau roman, Eric Faye, Éclipse japonaise, qui est publié au Seuil, et une façon d'aborder, de parvenir à évoquer la Corée du Nord, c'est notamment donc depuis le Japon, depuis ces personnes évaporées, comme vous le dites, dans votre roman, et qui pour certaines ont réussi à ressurgir, à revenir de la Corée du Nord et revenir au Japon pour ces personnes évaporées au Japon. Mais alors dans votre roman, foin de sensationnel, comme dans cette extrait du reportage télévisé Pièce à conviction qui a été diffusé sur la télévision française pour évoquer ces disparitions. En revanche, avec la fiction, dans Éclipse japonaise, Eric Faye, il semble que vous ayez osé embrasser toute l'ampleur dramatique, que ce soit en termes d'action mais aussi de tragédie, d'un véritable film d'espionnage.
Les quelques personnes que j'ai voulu suivre, qui sont devenues des personnages, hein, j'ai incarné cette affaire avec quelques personnages, 4-5 principaux, sont pour moi des personnages emblématiques des différentes tragédies du XXe siècle, des tragédies sur fond idéologique, sur fond de guerre froide, de lutte entre services d'espionnage. La partie de la planète où le XXe siècle continue dans le même moule qu'il a commencé bien avant Yalta, dans les années 30 à Moscou, c'est actuellement entre la Corée du Nord et le Japon ou la Corée du Sud. Voilà. C'était ce qui m'intéressait, c'était ces personnages, qui sont d'un jour à l'autre arrachés à leur destin, à leur vie, et qui sont les victimes d'une époque, de ce XXe siècle dont on émerge éberlué tellement il a été, dans certaines régions du monde, hein, pas ici, il a été dur, tragique, inhumain.
Mais alors pourquoi est-ce que vous avez choisi de nous raconter une sorte de film d'espionnage? Parce qu'il y a des côtés James Bond dans la formation d'un de vos personnages, mais aussi voilà dans le destin de ce soldat américain qui franchit la frontière une nuit d'hiver.
Parce que dans ces régions-là, l'espionnage, malgré fait partie de la vie de personnes qui étaient des gens des kidam qui sortaient de chez eux un jour pour aller acheter du riz, des choses comme ça, ou qui se baladaient entre fiancés sur une plage. Voilà, brutalement, vous êtes plongé dans un roman d'espionnage, dans ce qu'on nous a vendu comme un roman d'espionnage du temps du partage des deux Allemagnes. Mais effectivement, ces quelques personnages-là l'ont vécu. Voilà. Et moi, ce que j'ai essayé de suivre mentalement, c'était le processus qui peut se passer dans les têtes de ces gens-là. Comment réussissent-ils à survivre à cet arrachement d'une violence, d'une brutalité totale? Et comment ils arrivent à... C'est presque tragicomique, hein, parfois. On pourra évoquer le personnage du déserteur, de l'Américain qui disparaît entre les deux Corées une nuit d'hiver au milieu des années 60, parce qu'il a la trouille bleue que son régiment soit envoyé à la guerre du Vietnam. Donc vous voyez plusieurs conflits du XXe siècle, emblématique de la deuxième partie du XXe siècle, qui se rejoignent, la guerre du Vietnam et la guerre les suites, disons, de la guerre de Corée. Du coup, il choisit de déserter, d'aller droit devant, c'est-à-dire vers le nord, vers la Corée du Nord. Et pensant qu'il allait être arrêté et libéré au bout de quelques semaines et libéré aussi d'un envoi au Vietnam. Or, au lieu de ça, il est resté 38 ans en Corée du Nord. Il a fait tout un tas de petits métiers, dirions-nous, dont celui de star de cinéma, au passage. Et quand il a réussi 38 ans ou 39 ans plus tard à quitter la Corée du Nord, il s'est aperçu, la première chose qu'il a apprise, c'est que son unité n'était jamais partie à la guerre du Vietnam. Cette dimension tragique et à la fois burlesque qui m'a intéressé dans ce destin de celui qui s'appelle Charles Jenkins dans la réalité, qui vit aujourd'hui sur une île du Japon avec sa femme qui, elle, avait été enlevée. C'était une de ces japonaises, de ces japonais qui avait été raflé, pris un peu au hasard sur le littoral du Japon à la fin des années 70, à la suite d'une directive donnée par le numéro 2 du régime d'alors, Kim Jong-il, qui avait dit à ses espions en poste au Japon, Quand vous revenez, ça serait bien de revenir avec un otage, avec un japonais. Ça serait mieux pour votre avancement ou pour éviter de mal finir.
Ce sont des Japonais qui vont devenir des profs, en fait, de civilisation et de langue pour les espions.
La plupart, oui, oui, oui. Mais dans tout cet absurde de la situation, c'est que certains ont été kidnappés pour rien. Comme celle qui va devenir la femme, qui va être mariée, hein, sans qu'on lui demande, au soldat américain déserteur. Elle a été enlevée un jour de 1978 sur l'île sur Sadogashima pour finalement devenir l'épouse d'un soldat américain. Voilà. Parce que les prises de guerre, les étrangers qui étaient captifs de la Corée du Nord les mariait non pas à des Nord-Coréennes, mais à des étrangères, hein. Voilà. Il fallait pas mélanger les torchons et les serviettes. Ils voulaient les marier pour les fixer sur place, pour leur donner un sens des responsabilités, qu'ils aient des enfants. Et au bout du compte, ça faisait des familles, tout ça. Ça faisait, mine de rien, dans une dictature très dure, ça faisait des petits îlots de bonheur familiaux.
Donc par rapport à cet extrait de documentaire, plutôt de reportage télé qu'on a entendu, l'avantage donc de ce livre, c'est de nous déplier à l'intérieur des personnages, oui. De pouvoir croiser les histoires, les époques, les décennies aussi. Donc effectivement, vous avez ce filtre qui est le filtre de l'humain, vous passez par les gens, et c'est votre point commun justement avec Aurélien Ducoudray, parce que vous aussi, c'est votre mantra en fait, c'est-à-dire que vous partez du journalisme, mais c'est lorsque vous êtes passé par le filtre humain que vous avez eu l'impression de saisir au plus près ce que vous avez peut-être de manière voilà tâtonnante attrapé dans vos reportages. Le héros, lui, il s'appelle donc Zhuang Song. Quand on le découvre, il a 8 ans, il est chef des jeunesses patriotiques de son quartier, il est né le jour de l'anniversaire du leader Kim Jong-il, d'où le titre de la BD, l'anniversaire de Kim Jong-il. Donc pourquoi est-ce que vous, en tant que journaliste, vous réalisez qu'à un moment, justement en étant dans la tête des personnages, ou en étant à hauteur d'enfant comme Zhuang Song, qu'on dit plus de vérité sur le terrain?
Bah moi, je pense que quand le documentaire peut pas y aller, la fiction doit prendre sa place et y aller à sa place, en fait. Être dans la tête d'un enfant de 8 ans, c'est une mission impossible pour un réalisateur de documentaire. Il n'y a que la fiction qui peut nous permettre ça. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'est de voir cette chose énorme qu'est la Corée du Nord par un tout petit enfant, qui est cette espèce de distance incroyable, écrasante, sur ce môme. Et je voulais surtout que les gens ils puissent se dire « Mais ce gosse, je le connais, quoi ». J'aurais pu être ce gosse quand j'étais petit. On a joué à des trucs. On a joué aux cow-boys et aux indiens. Eux, ils jouent pas aux cow-boys et aux indiens. Eux, ils jouent aux chiens d'américains et aux fantoches du sud. Mais c'est à peu près les mêmes jeux. Et moi, je pense qu'une histoire, que ça soit un roman, une bande dessinée, il faut qu'elle soit incarnée, quoi. C'est les personnages qui portent tout. C'est-à-dire que le personnage porte à la fois le langage, peut aussi porter le style de l'écriture. Je pense que c'est aussi important. Et c'est des petites épaules. Moi, mon petit personnage, il a des petites épaules, mais elles sont assez solides au final.
Des petites épaules dessinées par Mélanie Allag. Oui. Mais justement, il y a aussi cette question de l'enfance, parce que c'est pour entrer dans l'histoire chez vous, Aurélien Ducoudray, et mieux la faire palpiter, et faire palpiter aussi toute son horreur, que vous avez choisi cet enfant comme héros de l'anniversaire de Kim Jong-il. Mais l'enfance, c'est aussi un enjeu crucial dans toute la cruauté, à nouveau, du régime nord-coréen. Eric Fay, avec ses enfants qui n'appartiennent pas à leurs parents, mais à leur patrie.
Alors, notamment le cas d'une étudiante qui est repérée, qui a un énorme défaut, enfin, qui va la conduire à sa perte ou à une renaissance d'une autre certaine façon. C'est une étudiante qui est repérée pour ses qualités, ses talents dans les langues étrangères et notamment dans le japonais. Et elle est tellement bonne dans cette discipline qu'elle est repérée par les services secrets nord-coréens qui lui disent « Écoutez, venez, on vous donne une mission pour servir la patrie. Est-ce que vous acceptez ?» Évidemment, elle a du mal à dire non, quoi, dans le contexte.
Elle est même enthousiaste.
Elle est enthousiaste, oui, parce
qu'elle doit abandonner ses relations amoureuses au passage. Bon, il y a deux, trois deuils à faire.
Dans un pays où on grandit, où l'idéal, c'est, comme on le voit dans la bande dessinée d'Aurélien Ducoudray, c'est non pas aujourd'hui, mais demain, on sert l'avenir, quoi, et on lui demande de servir l'avenir, c'est-à-dire Alors, elle est mobilisée dans une école des services secrets pour apprendre à devenir espionne, à devenir une machine à voler des documents, une machine à s'introduire partout et aussi éventuellement une machine à tuer, puisqu'on va lui demander, entre autres, de commettre un attentat. Et dans ces deux années qu'elle vit dans la banlieue de Pyongyang pour être formée, elle est formée notamment par des Japonais, des Japonaises, dont elle peut soupçonner légitimement qu'ils ne sont pas là de leur plein gré. Donc peut-être c'est là où l'histoire de cette étudiante rejoint les Japonais kidnappés, c'est qu'une bonne partie d'entre eux, effectivement, ont été kidnappés pour servir comme formateurs de futurs espions nord-coréens. Formés à quoi ? Formés à se faire passer pour de vrais Japonais le plus possible, pour éviter d'être démasqués comme nord-coréens quand ils commettent des attentats, des assassinats ciblés.
Pour Éclipse japonaise, Eric Fay, vous êtes nourri de rapports, d'enquêtes, de comptes rendus dans la presse. Vous avez regardé énormément de documentaires. Vous êtes tellement documenté que vous êtes retenu dans le nombre de pages parce que vous avez resserré l'écriture.
Oui.
Mais vous étiez extrêmement nourri pour ce livre. Et moi, j'avais envie de savoir quelles étaient les nourritures documentaires qui avaient présidé à l'anniversaire de Kim Jong-il, Aurélien Ducoudray. Parce que, pour reprendre le thème de l'enfance, quand on est dans la cour de récréation, on joue au martyr, hein, Risu Bok, c'est un petit garçon qui est mort pour la nation parce que sa vie et son espoir valent moins que la patrie. On se traite donc de sale chien d'Américain, de cochon du Sud, d'ennemi du peuple, de fantoche du Sud. J'en ai marre, c'est toujours moi qui fais les Coréens du Sud, etc. Ces petits dialogues, ces scènes de cours de récré en Corée du Nord à la fin des années 90, elles viennent d'où ?
Moi, la plupart des informations que j'ai pu passer dans cet album, elles viennent de témoignages de Nord-Coréens qui ont réussi à fuir leur pays et qui ont fait des ouvrages, souvent avec des journalistes qui ont recueilli leurs témoignages. Et une chose qui était très intéressante, c'est que il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écrits par rapport à leur jeunesse. Et au fur et à mesure des lectures, moi j'ai ressenti qu'il y avait une espèce de paradis perdu qui s'en dégageait. Quelque chose qui pour moi était incompréhensible, parce que ce qu'il racontait, c'était qu'une succession de choses quand même très très dures, difficiles, voire horribles. Mais il y avait vraiment cette impression-là qui fait que quand on était jeune, cette Corée du Nord, c'était quand même notre mère nourricière et on l'aimait et on l'appréciait. Et moi, c'est ce que je voulais pour la bande dessinée, c'est qu'à aucun moment on puisse se dire « Oh là là, vraiment, le scénariste, là, il y va fort, il charge le régime. » Moi, je n'ai pas à charger le régime, il se charge tout seul. Mon point de vue d'Européen occidental, je trouve qu'on n'en a pas besoin. Je préfère son point de vue à lui.
Oui, quand les enfants se battent dans la rue pour une charrette d'excréments, une charrette de merde, en effet, il n'est pas besoin d'en rajouter.
Mais en même temps, c'est drôle.
Non, mais c'est une vieille tradition pour fertiliser les champs.
Pour l'engrais au printemps.
Oui, oui. Mais enfin, ça, c'est pas Dior, hein. On traverse des champs.
Et puis c'est les enfants qui travaillent dur, oui. Que ce soit dans les camps ou dans les quartiers populaires des masses de Corée du Nord. Mais si on est justement dans le quotidien de la majorité de la population de Corée du Nord qui, cet hiver encore, s'apprête à souffrir très dur après les typhons et à l'approche de l'hiver. On est avec vous, Eric Fay, dans vos éclipses japonaises, dans des lieux qui sont en lisière, là où en effet on va cacher, enfermer les étrangers qu'on a pu capturer au gré des missions des espions de Corée du Nord. Et donc, d'une certaine façon, on est dans le simulacre du simulacre. C'est, on va au plus loin de ce simulacre géant qu'est la Corée du Nord.
Ils étaient des prises de guerre très intéressantes pour le régime. Il y a d'ailleurs encore aujourd'hui un des 4-5 déserteurs américains qui ont quitté la Corée du Sud, qui vit toujours de son plein gré, apparemment, en Corée du Nord. Ses deux enfants, ses deux fils qu'il a eu avec une Roumaine qui, elle, avait été kidnappée et s'était retrouvée par malheur là-bas. Il a eu deux enfants qui sont devenus des officiers, aujourd'hui des officiers supérieurs de l'armée nord-coréenne. Alors, ces gens-là vivent à part, ils ne vivent pas parmi la population. Hein. De la même façon, les anciens de l'armée rouge japonaise, la guérilla urbaine des années 70, certains avaient détourné, par exemple, un avion de, du Japon vers la Corée du Sud et puis la Corée du Nord, ils vivent dans ce qu'on appelle la cité de la Révolution. Alors c'est un quartier assez opulent, enfin avec des belles maisons de la banlieue de Pyongyang. Mais Pyongyang est déjà une scène de théâtre, parce que ne vit pas à Pyongyang qui veut. C'est pas comme à Prague dans les années 70. Il y a ce Songbun là, cette échelle sociale. Il y a une centaine de catégorisations qu'on voit bien apparaître dans votre bande dessinée. Selon qu'on a des parents ou des ancêtres qui vivent encore en Corée du Sud, ou qui ont coopéré, ou qui n'ont pas été dans la lutte de libération contre les Japonais, ou qui ont coopéré, pire, avec les Japonais, vous êtes catégorisés, et donc seulement les catégories supérieures sont habilitées à vivre dans Pyongyang, qui est une ville musée, une ville... Il y a relativement peu d'électricité, mais pour certains, oui. Pour les statues, par exemple.
Oui, c'est ça. On peut éclairer le leader et son fils la nuit, mais en revanche, il faut rester dans le noir pour le reste de la famille.
Voilà.
J'ai remarqué ça quand je suis allé à Moscou pour mes études, et j'ai vu que là-bas, les traces du passé...
étaient effacées.
Effacées, très loin. Mmh. Par exemple... personne n'attendait jamais utiliser le mot « madame » ou « monsieur ». C'était grotesque de dire ça, vous risquez d'avoir les grandes ennuis, c'est-à-dire même d'une façon privée, pourquoi tu me dis « madame », est-ce que je suis, je ne sais pas, un prostitué ou quelque chose comme ça, hein? Tandis que dans mon pays encore, on a utilisé une partie de la population, c'est-à-dire cette vestige du passé était encore vivante, et même, je dis une petite curiosité, quand, après la chute du communisme, par curiosité, j'ai demandé aux Russes que j'ai rencontrés, est-ce que c'était rétabli maintenant l'usage de
monsieur, madame.
Monsieur, madame, gospodine et gaspaja? Ils ont dit non, c'est pas possible. C'était très longue la dictature soviétique. Et c'est pas possible de rétablir.
Vous écoutez Ismaël Kadaré sur France Culture en 2007, Affinité élective. Nous l'avons choisi pour vous, Eric Fay, car évidemment, c'est non seulement un des livres qui a changé votre vie, c'était qui a ramené Dorantine, mais en plus, vous allez ensuite écrire votre premier livre sur lui. Il y aura aussi des entretiens, des essais. C'est quelqu'un dont vous admirez le réalisme magique, le mélange d'absurde. Qu'est-ce qu'il y a de cette veine d'Ismaël Kadaré dans cette éclipse japonaise? J'ai pensé par exemple à cette scène où l'une de ces nippones qui a été enlevée devoir donner des cours et apprendre des petites chansons, des berceuses, des chansons populaires japonaises à tous ces futurs espions.
Je pense qu'il n'y a pas 36 sortes de totalitarisme et qu'il y a un socle commun entre ce qui était le stalinisme albanais et ce qui est aujourd'hui la dictature pseudo-communiste, plutôt militaire de la Corée du Nord. Les recettes pour aboutir à ce résultat sont relativement identiques. Et j'ai beaucoup puisé dans mes expériences albanaises, mes souvenirs de discussions avec d'anciens prisonniers politiques, avec des intellectuels, pour faire une sorte de transfusion vers la Corée du Nord, qui a évidemment ses spécificités, bien sûr, c'est pas la même chose. Mais je pense qu'il y a quand même un socle commun qui m'a beaucoup aidé dans la... Comment en fait les tyrans sont les concurrents des romanciers. Ce sont nos plus grands alliés objectifs. C'est un roman là, une dictature. C'est-à-dire le tyran comme l'écrivain cherche à faire croire à une histoire à ses lecteurs. Ça marche ou ça marche pas. Hein. Ou alors bon, mais il y a les mêmes recettes. Hein. Voilà, c'est.
Faut rappeler que Ismaël Kadaré, donc écrivain albanais, qui nous racontait là, à ce moment-là la disparition du bonjour madame, bonjour monsieur en Russie, l'une de ces fantasmagories, de ces récits absurdes produits par la dictature.
La Russie a vécu d'abord 70 ans sous le régime communiste, beaucoup plus long que la Corée du Nord pour l'instant. Je sais pas si on peut comparer les deux pays, les deux expériences, quoi. C'est très différent, quoi. Ce que vit la Corée du Nord, c'est plutôt ce que vivait la Russie stalinienne. et pas ce qu'a vécu la Russie d'après 1956. On en est loin.
1, 2, 3.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture. Vous êtes à Pyongyang avec Aurélien Ducoudray. Dans quelques minutes, nous restons entre la Corée du Nord et le Japon avec Eric Faim. On va même faire un petit tour maintenant en Palestine.
Ping Pong. La culture sans limite.
Oui, car si les personnages du roman d'Eric Faye et de la bande dessinée d'Aurélien Ducoudray ont longtemps vécu de l'autre côté de la frontière, en particulier les évaporés d'Eric Faye, eh bien, lui aussi, lui, c'est Tamer Abou Ghazaleh, musicien palestinien, né en Égypte. Alors, foin de montagnes de diamants dans son paysage mental et sonore, mais plutôt des pyramides et des cailloux qui dansent au son de l'oud et du bouzouk. Et plutôt que la doctrine de Kim Il-sung, ce qui a pu guider Tamer Abou Ghazaleh, c'est un engagement politique, parfois un brin irréfléchi, comme il le considère aujourd'hui, et surtout un combat esthétique guidé par l'idéal pan-arabe expérimenté, notamment avec le groupe Alif Ensemble, aux côtés de musiciens syriens, libanais, égyptiens, palestiniens et irakiens. Pourtant, comme la Corée, Tamer Abou Ghazaleh est définitivement bifronce, comme l'illustre son portrait scindé sur la pochette de son nouvel album Tools, et comme le manifeste plus encore sa voix qui se dédouble et sa musique qui accouple matériaux traditionnels et textures actuelles, instruments et machines, avec un art de l'assemblage et du montage très cut et contemporain, et toujours un goût prononcé pour la performance scénique. Tamer Abou Ghazaleh en live en direct sur France Culture.
Thank you.
Et le troisième, comme son nom l'indique, de Tamer Abou Ghazaleh, paru chez Mostakel Différente. Et Tamer Abou Ghazaleh et ses musiciens seront en concert ce samedi au Savoureux Primeur de Massy, qui débute ce soir.
Mathilde Serrel, Martin Kenéen, Ping Pong, c'est sur France Culture.
Une chanson pour Kim Jong-il, Song for Kim Jong-il. Vous écoutez France Culture, nous avons glissé d'un genre musical à l'autre car nous faisons l'ouverture de cette deuxième partie d'émission avec l'anniversaire de Kim Jong-il, signé Aurélien Ducoudray pour ce qui est du scénario. Les dessins sont de Mélanie Allac, c'est publié chez Delcourt. On va donc se balader, je l'ai dit, à la fin des années 90 jusqu'au début des années 2000, donc au pays de Kim Jong-il, puis de Kim Jong-un. Et vous avez donc décidé de nous le raconter à hauteur d'enfant. Mais je voudrais savoir ce qu'il y avait justement dans cette entreprise d'amusant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses comiques qui peuvent se faire en ce moment autour de la Corée du Nord. C'est presque devenu un sujet de LOL, comme on dit sur les internets. Kim Jong-il Looking at Things, c'est un Tumblr, c'est un petit site internet où on met des photos de Kim Jong-il qui regarde des poireaux, qui regarde des gens passer dans la rue. Vous avez évidemment The Interview, hein, qui avait été fait donc par Seth Rogen et James Franco. Donc, comment dans cette veine de cette espèce de production humoristique autour de la Corée du Nord, on place son scénario tout en nous racontant l'histoire qui est quand même celle de l'anniversaire de Kim Jong-il, qui est celle aussi des camps de Yodok.
Je ne sais pas si j'avais conscience qu'il y avait tout ça autour au moment où moi je me suis attaqué à ce truc-là. Moi, ce qui m'a vraiment plu, et ça répond à une question précédente par rapport à pourquoi un enfant, parce qu'on ment aux enfants. Je trouve qu'on fait que ça, mentir aux enfants. Moi, j'ai un petit garçon de 5 ans. Je lui mens très, très souvent, en fait, sans le faire exprès. Je lui ai pas encore dit que le Père Noël n'existait pas, la petite souris et tout ça. Tous ces mensonges-là, je les ai pas encore dévoilés. Et en Corée du Nord...
Vous auriez dû prévenir, on aurait éloigné les enfants du poste. Hein, parce qu'il y en a qui écoutent France Culture très jeunes, qui ont des parents tortionnaires.
Je lui ai dit de pas écouter ce soir. Mais ce qui est impressionnant en Corée du Nord, c'est que dès leur naissance, la machine à histoire est lancée et elle est écrasante, quoi. C'est-à-dire que... Le mensonge est constitutif en fait de l'éducation depuis tout petit et on continue à vivre dans le mensonge tout le temps et je pense qu'on finit par y croire.
Mais l'humour aussi est constitutif de l'existence et de l'expérience humaine, en particulier dans des expériences limites, dans des situations sous des régimes totalitaires. Moi, je voulais savoir si, de votre point de vue, parce qu'il y a une blague nord-coréenne qui est divulguée dans l'anniversaire de Kim Jong-il, mais si on pouvait appliquer à la Corée du Nord cette fameuse et cruelle blague de l'URSS qui voulait que Adam et Ève soient les premiers soviétiques, puisqu'ils vivaient nus, qu'ils avaient pour seule nourriture une pomme pour deux à partager et qu'ils se croyaient au paradis. Il y a quelque chose de cela aussi dans ce que vous décrivez du quotidien des hommes et des femmes et des enfants de Corée du Nord.
Ouais, à la place de Dieu, c'est Kim Jong-il par contre. Vous pouvez pas mettre Dieu.
Vous voulez dire l'étoile brillante, vous voulez dire le commandant invaincu à volonté de faire, vous voulez dire le dirigeant mondial du 21e siècle?
Ça aurait pu être beaucoup plus long. Hein. J'ai lu pas mal de choses où il y avait le grand vainqueur du Mont Paktou, etc., etc. C'est très...
Mais à propos des mensonges et du Père Noël, qu'est-ce qu'on raconte sur lui? Parce que son père, enfin sur Kim Jong-il, on dit qu'il est né en haut d'une illustre montagne, au pied d'un arc-en-ciel, au moment du passage d'une comète. Et pour Kim Jong-un, alors, vous êtes au courant de...
Je pense que c'est quasi Superman. C'est cette espèce de mythologie totalement incroyable qui nous paraît complètement... complètement démente, mais qui, bien intégrée petit à petit, répétée tous les jours, est parfaitement plausible. Après, vous savez, je pense que certains de nos hommes politiques ont aussi une mythologie qui est bien moins explosive, mais on y croit quand même.
Éric Faye ?
Oui, moi, en lisant la BD d'Aurélien là, du Coudray, j'ai pensé au conte d'Andersen, le roi est nu, c'est ça le titre ? Bon, bref. Non, les habits neufs de l'empereur, voilà.
Et vous avez spoilé la chute, comme on dit à Hollywood.
Et la vérité ne peut sortir que de la bouche des enfants. C'est-à-dire, c'est eux qui vont, à un moment... d'ailleurs, on le voit bien, dans votre enfant, de temps en temps, il fait des bourdes, ou alors malgré la propagande, il est naturel, il est l'enfant éternel. C'est par lui que viendra la solution.
Je pense que de toute façon, le plus grand ennemi de la propagande, c'est la question. Et qui de mieux que les enfants pour poser des questions dérangeantes à chaque fois, quoi.
Un pays sans pourquoi, dites-vous.
Pardon ?
C'est un pays sans pourquoi, la Corée du Nord. Alors ça, c'est chez Éric Faye, peut-être, que je pardon,
oui,
je m'y perds. Hein,
c'est l'anniversaire des éclipses japonaises. C'est un roman graphique qui sera bientôt publié au Seuil chez Delcourt. Et justement, pour revenir à ce roman graphique, à cette BD, et à ce trait qui va se modifier. Alors, je sais que c'est pas forcément votre territoire, c'est celui de Mélanie Alla qui signe les dessins, c'est quand même une œuvre commune. Il y a une modification du trait, on va être sur des couleurs de l'enfance au départ, puis on va passer au noir et blanc au moment d'une tentative exode avorté qui va finir, donc je le disais, au camp de Yodok. Il y a des choses graves qui vont se passer au fur et à mesure et le trait va se détériorer, les couleurs vont disparaître. On a reçu dans cette émission François Ozon dans Ping Pong, dans la réalisation de Franz, quand la couleur apparaît, c'est lorsque la vie finalement coule à l'intérieur des personnages, le noir et blanc revient, c'est que lorsqu'elle s'est retirée. Comment est-ce que ça s'est passé justement, ce changement de trait et cette disparition de la couleur ?
Mais en fait, on n'a pas tout de suite pensé à cette disparition de la couleur parce que c'était quelque chose qui nous plaisait beaucoup, la couleur. On a trouvé beaucoup d'illustrations, de propagande et même quelques dessins animés où la couleur est très très présente. Et le dessin de Mélanie est très très proche des dessins de propagande. Et moi, quand je lui ai demandé de faire ce livre, je voulais ça. Je voulais me servir de la propagande pour, c'est peut-être un peu ambitieux, mais la prendre à son propre piège. C'est-à-dire qu'avec des jolis dessins de personnages tout mignons, pouvoir raconter des horreurs que la propagande cache avec ses jolis traits.
C'est par exemple le suicide d'une maman dans un camp, c'est des enfants qui enterrent les morts, c'est des gens qui ont des pistolets braqués sur la tempe à l'âge de 8 ans, on est puni parce qu'on est contre-révolutionnaire, c'est des jeunes femmes qui essayent de partir en Chine, qui vont se retrouver prostituées, c'est vrai que c'est très très noir.
Ouais, c'est très noir, c'est vrai, mais en même temps, voilà, c'est l'essentiel des témoignages. Mais je pense que...
Et vous les avez compilés, en fait, Aurélien du Coudray. Ce qui m'étonne, c'est que là, vous dites que vous êtes inspiré notamment des images de propagande pour le trait de Mélanie Alag pour les images. Mais pour ce qui est du récit, du scénario, vous l'avez dit tout à l'heure dans la première partie de l'émission, qui est nourri en particulier de témoignages de Coréennes et de Coréens du Nord qui ont réchappé à cette expérience parfois concentrationnaire du pays. Et vous faites le choix d'un récit qui a des airs de descente aux enfers ou d'escalade dans l'horreur, dans la douleur, dans la violence, et qui a quelque chose presque de du Marquis de Sade. On évoquait les contes pour enfants tout à l'heure, mais on est voilà dans les infortunes de votre jeune héros. Parlez-nous de ce choix-là. Vous rejoignez aussi la trame des mélodrames qu'il y a dans le régime communiste chinois ou nord-coréen.
Mais c'est exactement ça. Hansel et Gretel, tout le monde connaît le conte. C'est juste une abomination, cette histoire. Sauf que chaque fois que vous la voyez illustrée, c'est par des petits personnages sympas ou une sorcière qui fait un petit peu peur, mais pas tant que ça. Moi, enfin, je trouve que la bande dessinée permet ça dans ce récit. Cette petite distanciation graphique nous permet d'aller au plus près de choses absolument terribles, sans pour autant être choqué tout de suite. C'est-à-dire qu'on va pas refaire le livre, on va pas faire non, ça c'est pas pour moi, je veux pas lire ce truc-là, j'arriverai pas à le supporter. Alors qu'on les emmène quand même clairement dans un camp de concentration nord-coréen. Après, attention, les informations qu'on a sur les camps de concentration, nous on a fait en sorte que la partie graphique soit la plus neutre possible pour pas commettre d'erreurs on pouvait pas faire n'importe quoi avec ça. Du coup, quand vous parlez de contes, je trouve qu'on s'en approche vraiment, alors que c'est la réalité pure. Et cet aspect conte, moi, c'est ce qui m'intéressait dès le départ. C'est un petit poussé, Jun Sang. Par contre, il a perdu tous ses cailloux tout de suite, lui. Ça, c'est certain que je les ai fait piquer dès le jardin d'enfant. Mais ce schéma du conte, moi, c'est ce qui me passionne, en fait, dans les histoires.
Mais la platitude, le côté ultra réaliste de votre description, en particulier du camp de Yodok, fait quand même penser, dans le malaise et la douleur que peut ressentir le lecteur, au témoignage direct que sont cette littérature des camps, même si voilà tous les totalitarismes se ressemblent et sont singuliers chacun à leur manière, comme le rappelait Eric Fay. On pense à L'espèce humaine de Romer Antelme, on pense à, je sais pas, à Être et destin d'Imre Kertész, où il y a ce témoignage d'un enfant. Vous vous êtes posé des questions d'ordre éthique, justement, puisque vous n'étiez pas dans la transcription graphique d'un témoignage.
Alors cette question elle est vraiment amusante, parce que j'avais fait un autre scénario qui parle d'un boxeur qui a été interné à Auschwitz, qui s'appelait Jung Pérez. Et donc je discutais avec un de mes amis scénaristes et je lui disais, mais tu sais, je suis pas juif, je suis pas boxeur, je suis jamais allé à Auschwitz, quelle légitimité j'ai? Il m'a dit, écoute, arrête de m'emmerder, écris ton histoire et tu verras après, quoi. Donc je trouve qu'on... Si on est suffisamment documenté, en faisant attention, on peut aller dans ces terrains-là. Même je pense qu'on doit y aller, parce que en même temps, quand vous disiez que c'était très dur le passage en Yodok, Jun Sang, quand il arrive, lui, il se dit, bon sang, où est-ce que je suis? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et à un moment, il se retrouve en file, il fait, qu'est-ce qu'on fait? L'autre fait, qu'est-ce qu'on fait? On va à l'école. Et là, il se dit, ah bon, il y a une école? Ouais, c'est peut-être pas si mauvais que ça, quoi. Alors qu'on est quand même... trou de l'enfer, quoi.
Il faut voir l'école.
Et vous parlez, oui, attention.
Mais c'est une école, c'est quand même une école. C'est-à-dire qu'il retrouve ce qu'il y avait avant, quoi. Et moi, c'est vraiment ça ce qui m'intéressait. Et tout le récit est vraiment construit comme ça, quoi. Entre ce que nous, on voit, lecteurs européens, et qu'on identifie tout de suite comme c'est horrible ce qui va lui arriver. Mais ce que lui, il ressent, c'est pas forcément horrible, il sait pas. Mais on a quand même ce recul. On sait qu'il sait pas, mais je pense qu'on a envie de dire vas-y pas. C'est comme au cinéma, on dit non, attention, il est derrière, tu vas y avoir droit.
Ça parle à Guignol. Voilà,
je pense qu'il y a un petit peu ce regard-là qui fait que la bande dessinée fonctionne.
Mais justement, c'est quelqu'un qui va pleurer lorsque ses parents vont lui proposer de quitter la Corée du Nord pour rejoindre la Corée du Sud. Comment quitter le grand leader? Donc il y a effectivement le champ contre champ pour pas avoir une vision unique occidentale. Il y a aussi peut-être quelque chose d'universel, parce que vous parlez de la dimension du conte Aurélien Ducoudray. Je crois qu'il y a une formule de Gilles Deleuze qui vous est chère, Eric Fay, où finalement, faut pas faire des récits d'époque, mais faut quand même se débrouiller pour raconter son époque. Qu'est-ce qui filtre d'universel dans le conte de l'anniversaire de Kim Jong-il?
Peut-être ça... son aventure. Peut-être que c'est cette espèce de besoin de continuer, en fait. C'est-à-dire qu'au début, il n'a pas le choix, il continue, il avance, puisqu'il est dans un système qui ne lui laisse pas le choix. Mais une fois que lui, il a enfin compris qu'il avait une place à jouer quelque part et qu'il pouvait décider lui-même de la jouer, il continue, quoi. Il avance.
Eric Fay, cette dimension justement de raconter son époque sans la raconter vraiment, c'est aussi présent dans l'écriture japonaise, dans ces disparus sur lesquels vous avez enquêté, ces disparus japonais enlevés par la Corée du Nord?
Oui, comme je disais, ces personnages-là sont les chiens dans le jeu de quilles qui a été celui du XXe siècle et qui continue aussi au XXIe. Et les personnages de la tragédie moderne, ce sont plus des princes, ce sont plus des princesses, plus Electre ou Agamemnon, mais ce sont des quidam qui sont pris dans cette sorte de cascade d'événements qui il y a en plus par rapport à la tragédie shakespearienne ou antique, il y a une dose d'absurde qui caractérise la littérature du XXe siècle, mais aussi la vie au XXe siècle, depuis qu'on a inventé la bombe atomique et qu'on sait qu'en un clin d'œil, tout peut partir.
En particulier depuis la Corée du Nord, hein, qui, on le sait, multiplie les essais nucléaires de plus en plus puissants.
Comme le disent les États-Unis, ils n'ont pas l'intention de désarmer, hein, c'était l'info du jour.
Mais si on peut arriver à entrevoir, à laisser filtrer votre portrait, eu égard à ce que citait Mathilde de Deleuze, qui vous tient à cœur, Éric Faye, et puisque je vous rends désormais cette phrase, puisque vous êtes notre César, un pays sans pourquoi, cette Corée du Nord, mais pourquoi avez-vous choisi de parler de la Corée du Nord? On sait votre goût du Japon et vos expériences d'écrivain au Japon,
oui.
Mais alors la Corée du Nord, comment et pourquoi surtout est-elle aujourd'hui sur votre table de travail?
Ce qui est intéressant, c'est que quand on me parle d'éclipse japonaise, on me parle avant tout de Corée du Nord, et tout le temps où j'ai écrit ce livre, j'étais au Japon. Je parlais de japonais. J'ai essayé de reconstituer des scènes de la vie au Japon dans les années 70. J'ai aussi parlé de la Corée du Sud. Mais en ce moment, il y a quelque chose qui est braqué vers la Corée du Nord. Mais pour moi, ce n'est pas nécessairement le pivot, quoi, l'axe de ce roman. C'est autant le Japon ou des destins japonais, avec toutes les difficultés qu'ont les Japonais avec leur passé et avec leur minorité coréenne, avec leur rapport avec la péninsule coréenne, plutôt que la Corée du Nord. D'ailleurs, en ce moment, on fait une sorte d'abcès de fixation sur la Corée du Nord, mais je voyais hier encore des reportages sur le Laogai. On évalue qu'il y a 200 000 prisonniers dans les camps de concentration nord-coréens, ce qui est catastrophique. Mais il y en a 4 millions en Chine et qui fabriquent des objets qu'on manipule tous les jours, des jouets.
Chez Foxconn, vous voulez dire, par exemple?
Des jouets dans la chambre de nos enfants. Alors, ça, on n'en parle pas de la Chine, parce que la Chine, elle fait moderne, et la Corée du Nord, elle fait archaïque. C'est un peu le Disneyland du stalinisme, ça nous amuse.
C'est une image qui rassure que la Corée du Nord existe encore.
Oui.
Ça fait un petit peu part d'attraction qui est encore là pour montrer, regardez, ça oui, c'est le pire qui puisse exister.
Alors,
je pense qu'on veut surtout pas qu'elle change, sur ce point de vue.
Il y a des camps de concentration au Tibet, aujourd'hui, et en Chine, mais... Non, c'est pratique qui est la Corée du Nord, effectivement. Et elle capte... à un autre moment, ça pouvait être Cuba, mais là, c'est la Corée du Nord qui focalise.
N'empêche que quand on s'y attarde comme vous, elle a quelque chose d'effrayant.
Et comme vous le disiez, mais oui.
Bien sûr.
Et effrayant, mais est-ce que justement, il n'y a pas, comme on l'a souligné au début de l'émission, avec ce documentaire Under the Sun, est-ce qu'il n'y a pas justement une fascination à reproduire effectivement ces récits, cette usine à fiction, comme vous le soulignez, qui est la Corée du Nord, quand vous parlez du soldat Wang, qui est un peu l'équivalent du G.I. Joe là-bas, en Corée du Nord. C'est-à-dire qu'on va retrouver finalement tous les codes de la pop culture occidentale, mais à la sauce propagande.
Le Rambo de Corée du Nord.
Donc, ouais. Est-ce qu'on goûte pas avec une fascination cette culture de la propagande nord-coréenne?
Non, moi, je tiens quand même à préciser que le soldat Wang, il n'existe pas.
Vous l'avez inventé.
Ouais,
Encore une révélation d'Aurélien Ducoudray.
Mais c'était un vrai plaisir de l'inventer parce que je trouve qu'il est assez crédible au final. Donc,
mais oui, on a envie de visiter le parc
d'attractions. Il est crédible dans ce qui peut être produit, mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas au bout d'un moment une fascination?
Si, mais si on n'est pas fasciné, on n'écrit pas.
Mais je pense que Orwell avait une fascination. Oui. Enfin, quand il écrivait 1984, c'est les dictatures, à un moment, ce qu'on combat devient votre allié objectif. Il y a quelque chose de très trouble, que je pense que quand Orwell écrivait 1984 ou La ferme des animaux, il y avait une sorte de fascination-répulsion pour tout ça.
Comme vous le disiez tout à l'heure,
fabuleuse.
Vous le disiez tout à l'heure, le romancier est aussi le démiurge de son univers. Donc
oui,
mais il y a une fascination, mais aussi ce qui peut être un moteur de l'écriture, en tout cas que l'on ressent, j'y reviens en qualité simplement de lecteur de vos œuvres respectives, Éric Faye et Aurélien Ducoudray, c'est la révolte. Quand vous racontez ce que Mathilde rappelait au début de l'anniversaire de Kim Jong-il, donc votre bande dessinée avec Mélanie Allague, Aurélien Ducoudray, ce héros Rissoubok, héros trucidé auquel jouent les enfants dans la rue et jouent à mourir, il y a un côté nihiliste. Vous avez été quand même révolté et ça a pu être quelque chose qui vous a mu, qui vous a déplacé dans l'écriture.
Au début, on peut être révolté, mais je pense qu'il faut vite passer ce truc-là. Sinon, on s'enlise rapidement dans une espèce d'impossibilité de raconter quoi que ce soit, quoi. Je dis pas qu'il faut être complètement dénué de sentiments. Au contraire, si on n'a pas de sentiments, je pense qu'on peut pas écrire. Et puis, se mettre dans la peau de cet enfant, il faut soi-même jouer un petit peu ce truc-là. Mais cette révolte, c'est pas à moi de l'avoir, en fait. Je pense que c'est le rôle du lecteur. Moi, si je me laisse envahir tout le temps par cette révolte, je vais sortir chez moi, dehors, dans la rue, sur le macadam, et dire « ras-le-bol de cette Corée du Nord, c'est plus possible ». Mais ça, c'est stérile.
C'est Albert Cohen qui a mis du temps à raconter dans « Vous, frères humains », cette scène réelle d'antisémitisme qu'il avait vécu enfant. Et on l'avait vu retranscrit en bande dessinée par Luz, avec toute cette fantasmagorie qui va entourer le petit enfant dans les toilettes, tous ces murs où ces insultes vont s'inscrire. Il y a donc de l'invention dans cet anniversaire de Kim Jong-il. Il y a une part de fiction, il y a une part de fantastique. Aurélien Ducoudray, est-ce que si on se place par exemple sur un exemple qui est celui de la haine orchestrée contre la Corée du Sud, est-ce que vous nous diriez si Le Monde Pourri est Malade, qui est le livre que les enfants lisent, on leur explique ce qui arrive aux petits Coréens du Sud, c'est-à-dire que bon, on leur jette de l'acide et puis ils sont morts de froid, est-ce que ça existe, Le Monde Pourri est Malade?
Ben moi j'aurais bien voulu l'inventer, mais j'ai pas eu le loisir de l'inventer, ouais. J'ai trouvé ça dans un témoignage, quelqu'un qui se souvenait parfaitement de ce livre-là. On a cherché des images, moi j'ai pas réussi à trouver. Donc ce qui était intéressant justement avec Mélanie, c'est qu'à ce moment-là, on a essayé d'illustrer quelque chose qu'on n'a pas vu sans en faire trop. En même temps, comme c'est de la propagande, on est obligé d'y aller. Donc je trouve qu'il y avait un autre défi aussi graphique qui était vraiment intéressant, quoi. Mais si un jour je peux mettre la main sur une copie du Monde Pourri et Malade, ouais, j'aimerais voir ça. Ouais.
Oui, et puis un défi graphique de découvrir les pages que vous avez donc inventées avec Mélanie Allague de cet album nord-coréen qui dénonce et qui fantasme les misères de la Corée du Sud, et avec quelques pages plus loin, la façon que vous avez de décrire la réalité de la vie des enfants de Corée du Nord. Mais il y a à la fois des enfants qu'on forme à devenir des tueurs, avec ce genre de bande dessinée où il y a donc ces chiens d'Américains et ces fantoches du Sud. Et chez vous, Eric Fay, dans Eclipse japonaise, j'aimerais qu'on y revienne. Il y a cette jeune femme japonaise, enlevée en revenant de son cours de badminton, transférée en Corée du Nord pour apprendre des comptines à des tueurs. Et puisque le Japon est si important dans votre expérience et dans ce roman, est-ce que, puisque vous la retranscrivez, vous nous la chanteriez, cette comptine?
Non.
Non, je n'ai pas le talent. Vous avez appris à parler japonais presque aussi bien qu'un espion nord-coréen, non?
Pas tout à fait. Pas tout à fait. Alors, il y a d'autres enfants aussi qui étaient intéressants. C'était les enfants de ce couple improbable, américain et japonaise.
Deux détenus, donc, de l'autre côté de la frontière,
voilà,
de Corée du Nord.
Et qui ont deux enfants, et la mère ne leur révèle jamais qu'elle est japonaise, parce que ce sont les méchantes. Voilà. Et c'est seulement au moment où ils savent qu'ils vont pouvoir aller au Japon, que leur mère peut sortir de Corée du Nord, qu'ils apprennent que leur langue maternelle, qu'ils n'ont jamais su, c'était le japonais. Voilà. Et qu'ils vont découvrir... Alors, il y a un des deux enfants qui ne veut pas, parce qu'il dit non, le monde c'est ici. Leur père leur dit, mais le monde que vous connaissez, ce n'est pas le monde, ce n'est pas la réalité. Et ils vont être confrontés à l'âge de 15 ans, à la découverte du Japon, du pays de leur mère. Voilà, ils vont découvrir à 15 ans seulement que leur mère a été kidnappée, qu'elle n'est pas nord-coréenne de naissance. Et ce rapport-là, c'est carrément une explosion, quoi. C'est le psychisme, je ne sais pas ce qu'on ressent dans ces cas-là, j'ai essayé de l'imaginer, c'est extraordinaire comme violence.
c'est une bombe à déflagration, la vérité, mais il y a aussi un jeu avec l'histoire que vous aimez, j'ai l'impression, Eric Faye, c'est-à-dire que vous aimez imaginer l'histoire alternative. Vous avez déjà travaillé sur l'Uchronie dans Paris, c'était publié en 1997, on était dans un Paris séparé entre les soviétiques et les occidentaux. Quel rapport vous avez avec le jeu, comme ça, de l'histoire, en un mot?
Oh ben, les Uchronies peuvent être une expérience très intéressante pour poser des enjeux philosophiques. C'était très pratique pour moi de créer Paris, de diviser Paris comme Berlin, parce qu'on pouvait mettre côte à côte deux civilisations et sorte d'expérience de laboratoire, mais sur le plan philosophique, historique.
Ping-pong. C'est fini pour de vrai.
Et si vous voulez donc plonger dans le laboratoire de nos invités, eh bien vous pouvez découvrir Éclipse japonaise d'Eric Faye, son nouveau roman publié au Seuil. Et quant à vous, Aurélien Ducoudray, avec Mélanie Allag, vous signez l'anniversaire de Kim Jong-il chez Delcourt.
Le ping-pong est un petit récit radiophonique historique qui se compose en équipe. Et quelle équipe à la rédaction? Aïssat Wendoy, Jeanne Aléo, Seam Boutata et Lila Bozas. À la réalisation, Thomas Beau. Et à la prise de son ce soir, Théo Gomard et Stéphane Poitevin.
Quant à demain. Demain, eh bien, nous jouerons toujours au ping-pong et nous franchirons d'autres limites, les eaux noires du Mississippi et la Color Line, avec l'acteur américain Wendell Pierce et Daniel Soutif.